Matière à penser, Dominique Rousset.
Et Matière à penser, comme chaque mercredi, au carrefour de l'économie, de l'écologie, de la science, des initiatives citoyennes. On parle de travail ce soir, on parle plus exactement de libérer le travail. Mais attention, dès l'introduction dans le livre qu'il vient de faire paraître, mon invité lève tout malentendu, balayant le programme défendu par l'actuel président de la République. Il ne s'agit pas ici de débarrasser le travail de ses réelles ou supposées rigidités, et pas davantage d'ailleurs de s'arc-bouter sur les avantages acquis au fil des années en seule défense des salaires. Il s'agit plutôt de réfléchir aux conditions dans lesquelles le travail s'exerce, au rapport que nous entretenons avec lui, aux moyens de lui faire une meilleure place et de nous en trouver mieux. Cela passe par un sérieux examen de conscience, une critique des méthodes et des organisations dominantes au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et avant de réfléchir à de stimulantes propositions. Oui, il est bien temps. Travail, vive la liberté, mais laquelle ? Bonsoir Thomas Coutreau.
Bonsoir.
Libérer le travail, c'est votre titre, et le sous-titre, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer. L'occasion de revenir sur votre parcours personnel, j'ai trouvé très amusant en préparant ce dossier de voir dans l'Express un livre qui commence mal dans l'hebdomadaire. Rappel de vos engagements idéologiques, vous êtes économiste et statisticien, mais vous êtes aussi ancien porte-parole d'Attaque et cofondateur des Économistes Atterrés. Vous êtes donc de gauche et ce livre, on va le voir, est assez critique envers ce que la gauche a pu faire avec la notion du travail. Illusion, désillusion en fait sur l'abolition de la fameuse division du travail, c'est de ça que vous partez, c'est de cela, avec un 20e siècle et un socialisme qui n'aurait pas trouvé la solution.
Mais c'est surtout que le socialisme n'a pas cherché la solution. Le socialisme, en tout cas depuis le 20e siècle, parce qu'au 19e siècle c'était différent, il y avait chez les socialistes dits utopiques, il y avait eu un idéal de la liberté du travail, de l'association des travailleurs. Mais dans le mouvement socialiste et communiste du XXe siècle, cet idéal a complètement disparu et on s'est rangé à l'idéologie de l'organisation scientifique du travail, du taylorisme. On a cru que le progrès, c'était d'accepter les ordres des ingénieurs qui divisaient, qui organisaient, qui parcellisaient le travail et que ça allait apporter le bien-être grâce à des gains de productivité. Et finalement, on a eu des gains de productivité, mais aujourd'hui, on a un travail qui est devenu insoutenable, qui fait beaucoup souffrir, qui crée beaucoup de pathologies. Et aujourd'hui, c'est temps de reposer cette question de la liberté dans le travail.
On a oublié en route la qualité aussi dans le travail. Je reviens sur votre parcours personnel, pas très facile de faire admettre cela à vos amis, même économistes d'ailleurs, j'ai dit les économistes atterrés qui ont proposé un programme plus hétérodoxe face à un courant jugé trop libéral.
Oui, les économistes de gauche, comme la gauche en général, pensent en général plutôt à restaurer, à revenir au compromis fordiste, ce qu'on appelle le compromis fordiste, c'est-à-dire l'échange qui a été institutionnalisé après la Deuxième Guerre mondiale, l'échange entre un travail aliéné qui génère des gains de productivité et du pouvoir d'achat, l'aliénation dans le travail contre le pouvoir d'achat, la perte, ce que j'appelle échanger la perte du pouvoir d'agir dans le travail contre le pouvoir d'achat dans les magasins. Et finalement, on n'est pas sorti de cet univers mental. On essaie toujours de revenir, de restaurer les conditions de ce compromis, alors qu'il est devenu tout à fait insoutenable, pour des raisons écologiques d'abord, parce qu'on ne peut pas continuer à faire augmenter la consommation, en tout cas la consommation générale, la consommation moyenne. Certes, il faut augmenter le pouvoir d'achat des catégories les plus pauvres, mais ça peut se faire par la redistribution, il n'y a plus besoin de croissance pour ça. On est un pays bien assez riche. Pourtant, la gauche continue à réfléchir en termes de retour à la croissance. Alors, on nous parle de croissance verte, bien sûr, mais c'est un peu un oxymore.
Oui. On va revenir sur tous ces développements et surtout beaucoup sur les propositions que vous faites pour améliorer cette situation. Vous avez d'ailleurs écrit vos précédents ouvrages, dès le premier, je crois, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail. Et vous êtes responsable également, pas le seul, j'imagine, je ne sais pas, tous les 3 ans d'une enquête menée pour le ministère du Travail sur les conditions de travail. Vous les avez croisées avec d'autres enquêtes européennes. Je précise, c'est un travail très, très complet qu'on trouve dans ce livre et très bourré d'informations. Et donc sur le bien-être ou le mal-être au travail, les chiffres sont là, ils existent. Pour environ la moitié des actifs, le travail ou son absence de travail, le chômage, que vous n'oubliez pas, évidemment, affecte très sérieusement le bien-être psychologique. Et pour un tiers, il faut quand même parler des 30% qui sont heureux au travail, justement, le travail est épanouissement également. Pour un tiers, donc, il est positif. 10% en revanche sont en très grande souffrance. Vous faites d'ailleurs des catégories assez jolies entre insécurisés, empêchés, accablés et invisibles. On parle de 5 minutes d'ailleurs des 30% qui sont les plus heureux.
Oui, alors effectivement la souffrance
sachant
au travail...
Sachant que vous insistez beaucoup sur la souffrance après. Hein,
mais... La souffrance au travail n'est pas généralisée. Il y a pas mal de gens qui ont les moyens de trouver des satisfactions dans leur travail, pas seulement salariales. Des satisfactions en termes de sentiments de reconnaissance, de pouvoir faire des choses de qualité...
D'avoir
du plaisir dans ce qu'on fait, ça concerne quand même une proportion significative, hein, de l'ordre de 30% de l'ensemble des salariés. C'est plutôt des salariés qualifiés, voire très qualifiés, mais pas seulement. On trouve aussi des ouvriers professionnels, voire même... on a une surreprésentation de professions comme les assistantes maternelles dans cette catégorie.
Heureuses de ce qu'elles font.
Qui trouvent une reconnaissance, qui trouvent non seulement une place dans la société, un emploi, un salaire, mais aussi une reconnaissance sociale, un sentiment d'utilité, surtout un sentiment d'utilité. Parce que ce qu'elles font est extrêmement utile et apprécié par les parents. Et donc, voilà, c'est le travail peut être un facteur d'épanouissement et de bonheur dans certaines conditions qui sont malheureusement pas en pli pour la majorité des gens.
Et c'est de cela quand même qu'on va surtout parler. Je voulais aussi montrer une initiative originale que vous prenez. Vous mettez en relation la perception du travail qu'ont les individus avec leur vote politique. Donc vous avez examiné les récentes élections. Et vous pensez que c'est indispensable d'ailleurs ce regard politique, hein, on va peut-être le développer. Vous avez croisé donc des données, conditions de travail et des votes par commune, en France hein, bien entendu, au premier tour de la présidentielle de 2017. Et sans surprise, je vous laisse le dire.
Ah bah sans surprise, je sais pas, parce que moi-même j'étais un peu surpris des résultats. J'ai fait ça parce qu'il y a une littérature internationale, il n'y a pas eu d'études encore en France, mais... littérature scientifique qui montre que le manque d'autonomie dans le travail provoque une apathie politique. Les gens qui sont habitués à obéir à des ordres, à suivre des consignes, qui n'ont pas le droit, la possibilité de prendre des initiatives et d'exercer leur liberté dans leur travail, eh bien, ils n'exercent pas non plus leur liberté dans la cité parce qu'ils sont conditionnés à obéir. Et ça, c'est bon, c'est pas moi qui le dis. Hein,
Et pourquoi vous dites que ça vous surprend ?
Alors non, mais ce qui m'a surpris, c'est pas, c'est de trouver des résultats aussi forts. Alors que, si vous voulez, sur le plan technique, j'ai un petit problème, c'est que moi, dans l'enquête sur les conditions de travail, on demande pas le vote des gens.
Non.
Donc, on est obligé de passer par un peu une ruse, c'est de regarder les résultats électoraux au niveau de la commune. Et de supposer que les gens qui ont répondu dans cette commune, les gens qui ont répondu aux enquêtes du ministère du Travail dans cette commune, ils sont un peu représentatifs de l'électorat de leur commune. C'est une hypothèse assez audacieuse parce qu'on n'a que quelques individus dans chaque commune, hein, donc je m'attendais pas forcément à avoir des résultats très très nets. Et pourtant, ils sont vraiment très nets. Et on voit un lien très fort entre le manque d'autonomie dans le travail, c'est-à-dire le fait de faire un travail répétitif, de pas pouvoir prendre des initiatives, de pas pouvoir interrompre son travail quand on le souhaite. Et puis, d'un autre côté, le fait que dans la commune des gens qui répondent ça, il y a un vote Front National plus important qu'ailleurs, et il y a surtout une abstention.
Une très forte abstention.
Oui. Donc, c'est des gens qui se sentent impuissants dans leur travail et qui se sentent aussi impuissants dans la cité. Alors, je parle du premier tour, parce qu'au deuxième tour, il y a eu des abstentions dues au choix qui était proposé entre qui étaient des abstentions très politiques. Le choix entre Macron et Marine Le Pen n'a pas forcément mobilisé tout l'électorat. Mais au premier tour, le fait de s'abstenir est beaucoup plus lié à finalement un sentiment d'impuissance et voire même une certaine apathie politique.
Ce que vous appelez une contagion de la passivité, hein, l'abstention qui serait donc ce sentiment de résignation au fond.
Tout à fait. Oui.
On n'a pas de solution, donc c'est même pas la peine d'y aller dans les deux cas. Et d'où vient cette résignation de votre point de vue ? Pourquoi les salariés, au fond, vous êtes posé la question, hein, vous avez cherché évidemment à y répondre, acceptent-ils d'être privés d'autonomie ? Pourquoi acceptent-ils parfois même d'être menacés dans leur santé ? On va y revenir.
Oui, c'est une question. Alors pourquoi les salariés acceptent ? Ils sont dans un rapport de force difficile. Ils ont signé un contrat de travail qui suppose qu'ils abandonnent. C'est un contrat de subordination, donc ils abandonnent leur liberté en échange d'un salaire. Ça, c'est le principe du salariat. On accepte d'obéir à des ordres en échange d'une rémunération. Le plus problématique, c'est peut-être que les organisations syndicales et le mouvement social, le mouvement socialiste en particulier, lui n'a jamais remis en cause véritablement ce principe de la subordination, ce principe de l'absence de liberté dans le travail. Et ça, c'est une question qui m'a pas mal intéressé, d'essayer de comprendre pourquoi, au cours de l'histoire, en tout cas l'histoire du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, le mouvement social et syndical s'est aussi peu préoccupé de l'exercice possible de liberté, d'intelligence, d'initiative dans le travail, alors qu'on sait bien que c'est un facteur d'épanouissement, c'est un facteur de santé. Il y a beaucoup d'études épidémiologiques extrêmement sérieuses qui ont montré que l'autonomie dans le travail et la liberté dans le travail étaient un facteur majeur de construction de la santé au travail, et qu'à l'inverse, un travail en miettes, un travail très 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 passif, très répétitif, détruisait la santé. Donc c'est vraiment un enjeu pour les travailleurs eux-mêmes, c'est pas du tout un enjeu purement théorique. Et pourtant, il est très difficile de trouver...
Même dans la critique très, très violente, évidemment, du taylorisme, on ne trouve pas...
Oui, même dans les mouvements...
On ne trouve pas cette revendication-là.
Même dans les mouvements, je dirais, autogestionnaires, voire libertaires, on a peu de réflexions sur qu'est-ce que ce serait une organisation du travail émancipatrice, un travail libérateur. Ça pourrait consister en quoi ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour le mouvement syndical et la gauche de réfléchir à ces questions-là ? Je pense que il y a une réponse théorique qui m'a séduite. C'est celle proposée par le sociologue et philosophe américain Moshe Poston, qui dit que sous le capitalisme, la force de travail pour se négocier, pour être vendu à un entrepreneur, eh bien, elle doit accepter d'être abstraite de toutes ses caractéristiques concrètes. Elle doit accepter d'être découpée en tâches élémentaires qui vont chacune pouvoir recevoir un prix et faire l'objet d'une négociation sur un marché. Donc ce processus de marchandisation de la force de travail s'accompagne de son abstraction et du fait que on accepte finalement, pour mieux négocier le travail, on accepte d'établir une hiérarchie, des qualifications, des tâches, et de découper finalement le travail qui normalement... Le travail, c'est une activité vivante, c'est une activité imprévisible, c'est une activité qui mobilise, en tout état de cause, qui mobilise l'intelligence, qui mobilise la sensibilité, qui mobilise l'imagination. Ça, c'est toujours vrai. Mais pour le négocier, on est amené...
On se met à distance de tout ça, au fond.
On occulte tous ces aspects du travail et on le réduit à une réalité, à une fiction plutôt, d'un travail programmable, un travail standardisable, un travail prévisible et découpable en tâches élémentaires.
Et cette notion de l'abstraction, donc elle est organisée, elle est créée consciemment par le capital, pour le dire un peu rapidement.
Ah non, c'est même pas conscient, hein. C'est le phénomène du marché, quoi.
Elle s'impose d'elle-même.
C'est le marché, la logique du marché. Totalement dominante dans le capitalisme, impose ce processus d'abstraction.
Quand on parle du taylorisme, vous avez rappelé une expression que je ne connaissais pas de Taylor lui-même, l'idée qu'en standardisant le travail, justement, on peut réduire le travailleur à un gorille.
Oui, c'est une formule un peu qui a échappé à Taylor. Mais effectivement, l'idée, c'était d'avoir un travailleur parfaitement prévisible, avec des gestes totalement standardisés, totalement répétitifs. Ce que Taylor appelait le « one best way », c'est il n'y a qu'une seule manière, un seul geste efficace pour chaque opération. Et ça a été accepté. Voilà, ce qui est le plus extraordinaire, c'est pas qu'il y ait des ingénieurs qui aient imaginé que la science pouvait déterminer rigoureusement la manière dont un homme devait lever son bras et serrer une vis. C'est le fait que ça a été accepté avec même enthousiasme par le mouvement syndical dans les années 1910-1920. au nom de, finalement, l'idéologie de la science et du progrès. Hein, l'idée que c'était enfin la science qui allait organiser le travail. On n'allait plus dépendre des ordres d'un petit chef autoritaire ou bureaucratique, mais on allait obéir aux exigences de la science, impersonnelle, neutre, comme chacun sait. Et donc c'était un progrès par rapport à l'autoritarisme,
oui,
au paternalisme.
Oui, mais plus préoccupant, Thomas Cottreau, et vous le montrez aussi, jusqu'à la fin du XXe siècle, avec l'amplification justement d'une sorte de rationalisation technocratique, la révolution numérique, tout ce que nous avons vécu, pour vous, on est toujours dans la même automatisation du travail. Vous citez des exemples, hein, le temps d'un consultant, d'une infirmière, chronométré comme l'était celui d'un ouvrier spécialisé il y a 100 ans.
Oui, alors le temps des ouvriers...
Donc même abstraction, vous diriez ?
Le temps des ouvriers est toujours chronométré. Chez Michelin, chez Renault, il y a toujours des temps de cycle extrêmement précis. Mais cette logique s'est étendue à beaucoup de métiers des services aujourd'hui. Mmh. Les infirmières, effectivement, les consultants, enfin toute une... beaucoup de professions maintenant ont des temps de cycle, des temps opératoires très précis, définis par les ingénieurs en organisation. Et donc cette logique de l'abstraction et de la standardisation, elle s'est étendue à tout un ensemble de professions, y compris de professions de soins, de professions de relationnelles, dans lesquelles on ne pensait pas que c'était possible. Et ça aboutit à une dégradation de la qualité du travail et aussi de la santé du travail, de la santé au travail et même de la santé des patients. Puisque c'est pas dans les activités de soins standard, traiter le patient comme un objet, ça ne produit pas de la santé.
L'actualité nous le rappelle constamment, mais on se rend compte quand même que jusqu'à la fin donc du XXe siècle, on était encore dans cette situation, mais la prise de conscience sur la souffrance au travail était là. Pour ne parler que de la France, et une grande quantité de travaux mettait ça en évidence. Quand vous parlez de vos 10%, on le sait qu'il y a une vraie souffrance au travail.
Alors les 10%, c'est vraiment ceux qui sont en situation très critique.
Oui, et même avant, effectivement.
Mais
un bon tiers.
Voilà, il y a d'autres catégories. Je distingue d'autres catégories qui ne sont pas dans une situation de souffrance extrême, mais qui rencontrent quand même des grandes difficultés dans leur travail, que ce soit lié à l'insécurité de leur situation de travail, la précarité, qui est un facteur de stress et de dépression et de maladies de pathologies graves, que ce soit l'impossibilité de bien faire son travail, ce que j'appelle les empêcher, hein, c'est un concept qui vient du psychologue Yves Clos des Arts et Métiers, hein, le travail empêché, c'est l'impossibilité de faire un travail de qualité, et ça a des... Et ce sentiment d'échec, ce sentiment de contrevenir à ses normes, à ses propres normes éthiques et professionnelles, ça a des conséquences très sérieuses sur la santé. Bon,
la possibilité de prendre une initiative.
Oui.
Extrêmement douloureux aussi.
Tout à fait. L'impossibilité de développer son intelligence, de créer, hein, d'avoir du plaisir dans son travail, tout ça est pathogène. Mais c'est vrai qu'en France, depuis une vingtaine d'années, notamment avec le livre de Christophe Dejour qui a vraiment lancé ce débat souffrance en France, le livre de Marie-France Irigoyenne à la même époque sur le harcèlement moral, on a un débat social très très important autour de la souffrance au travail, et c'est pas seulement français, on a ce type de débat dans la plupart des pays aujourd'hui, parce que l'organisation contemporaine du travail c'est à radicaliser d'une certaine façon les principes tayloriens et à imposer cette logique ce qu'on appelle la logique commandement et contrôle, s'est imposée de façon de plus en plus rigide dans les organisations. Donc il y a un débat social important avec une prolifération d'articles, de livres, de documentaires, de films, etc. sur le sujet. C'est un marronnier des hebdomadaires, la souffrance au travail. Malheureusement, on n'a toujours pas vraiment trouvé de solution.
Ils arpentaient les rues et campaient sur les places, chargés d'objets obscurs, de graines ou bien de vent. Et de bien peu vivants, leur grand cri appâtant lavait le populace. Ils arpentaient les rues et crampaient sur les places. Oh, combien je regrette leur voix et leur musique, leurs mains escamotant les piécettes d'argent pour service rendu à quelques braves gens et leur air de se foutre de la chose publique. Oh, combien je regrette leur voix et leur musique. Nous sont donc devenus la remailleuse de bar, le crieur de journaux et la loueuse de chaises. Où donc se sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteaux et le sucreur de fraises? Qui donc les a remis? Le marchand de bourron, la porteuse de pain et le montreur de vue. Ils ont bien disparu, le crieur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues. Autrefois dans nos rues, on y trouvait aussi des colporteurs d'histoire et des marchands d'oubli. Il y avait du rêve plein les petites voitures. On achetait parc terrestre.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Thomas Coutreau, économiste qui vient de faire paraître Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque? Il nous a dit pourquoi. Et pourquoi ça doit changer ce que nous allons voir? Travail, vive la liberté, mais laquelle? C'est notre titre à nous. Il y a donc cette prise de conscience de la souffrance au travail quand même. Thomas Coutreau, vous l'avez dit, des travaux très importants, apparus vers la seconde moitié du XXe siècle, enfin un petit peu vers la fin plutôt. Et des innovations qui, paradoxalement, existent aussi. Mais pourquoi paradoxalement? Parce qu'elles sont surtout venues des managers et de l'entreprise. Et c'était une surprise de vous, pour vous, de le découvrir à ce point.
Oui.
Après la dite défection, disons, de la gauche et des syndicats sur le sujet.
C'est vrai que les initiatives les plus intéressantes en matière d'organisation émancipatrice du travail sont venues de managers et pas de réflexions d'intellectuels, de gauche ou de philosophes. Sont venues de praticiens, de managers qui ont constaté les ravages de l'organisation ultra-taylorienne du travail qui s'est développée ces dernières décennies et qui ont essayé de trouver des alternatives. Alors, ça fait longtemps qu'il y a des managers dits que j'appelle humanistes. C'est depuis les années 50 qu'il y a des psychologues ou des managers ou des conseillers en organisation qui essayent de convaincre les entreprises qu'elles auraient avantage à donner plus d'autonomie à leurs travailleurs, à les laisser prendre plus d'initiatives pour profiter de leur intelligence, du fait qu'ils connaissent bien le terrain, qu'ils sont près des clients, qu'ils ont donc les meilleures capacités pour décider la meilleure façon de satisfaire le client ou de fabriquer l'objet de la meilleure qualité. Mais ces consultants, alors donc ils ont inventé le management participatif, les équipes autonomes, bon.
Travail collaboratif, c'est-à-dire séparer les pouvoirs.
Plus récemment, le travail collaboratif.
Mais enfin, ils ont déjà commencé à décentraliser un peu quand même les pouvoirs de décision, essayer de répartir un peu mieux.
Oui, il y a eu beaucoup d'initiatives depuis les années 50.
On parle de quelle époque, là? Dès les années 50.
Dès les années 50, oui. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour tenter des innovations, s'éloigner du taylorisme et redonner des marges de manœuvre aux travailleurs. Simplement, ces initiatives sont toujours restées marginales. Et je cite un consultant en organisation américain qui a travaillé pendant 30 ans sur ce genre de projet et qui dit: chaque fois qu'on arrive à implanter une organisation innovante de ce type dans une entreprise, ça marche très bien, on a des gains de productivité épatants, mais dès que le patron qui nous a fait confiance s'en va ou dès qu'il part à la retraite ou dès qu'il est remplacé par un autre directeur, c'est terminé, on revient.
On redresse la barre.
On redresse la barre et on rétablit l'autorité hiérarchique. On revient aussi au système de commandement et de contrôle qui est vraiment dans les gènes de l'organisation du travail sous le capitalisme, parce que c'est une question de pouvoir. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs,
les dirigeants n'aiment pas lâcher le pouvoir.
Les dirigeants, s'il faut choisir entre augmenter le profit en réduisant le pouvoir ou augmenter le pouvoir en réduisant le profit, ils vont choisir la deuxième solution. Et l'expérience historique en matière de management alternatif le montre vraiment de façon très convaincante. Et alors aujourd'hui, on a des expériences. Alors la nouveauté, c'est qu'on a des expériences qui se basent vraiment sur une théorie extrêmement intéressante que les auteurs appellent la théorie de l'entreprise autogouvernée. Et les auteurs que je cite, c'est Frédéric Laloux et Brian Robertson, qui sont deux auteurs vraiment très intéressants, dont je conseille la lecture. Ce sont pas du tout des gens de gauche ni des intellectuels critiques. Ce sont des managers, des conseillers en management, mais qui développent une conception de l'organisation reposant très radicalement sur le principe de subsidiarité. C'est-à-dire toutes les décisions qui peuvent être prises de façon efficace par des acteurs de base à un niveau décentralisé doivent l'être parce que c'est la manière la plus efficace de travailler. Et il faut réserver au niveau hiérarchique supérieur un nombre extrêmement restreint de décisions stratégiques générales, mais très peu de décisions opérationnelles. Et ils ont mis en place, ils ont inventé, enfin à la lumière d'expériences concrètes, tout un système organisationnel assez complexe, mais extrêmement intéressant.
Il y a des entreprises qui se sont lancées là-dedans, entreprises.
Voilà, il y a des exemples.
Hein, oui.
Il y a des exemples de grandes entreprises. Alors, c'est plutôt des entreprises moyennes à capital familial, c'est-à-dire avec des patrons familiaux. Par exemple, on a le groupe Hervé en France, on a l'entreprise Favi dans la sous-traitance automobile dans le Nord. On a une série d'exemples comme ça, d'entreprises qui fonctionnent avec des équipes autonomes, avec des équipes d'ouvriers complètement autonomes dans leurs décisions quotidiennes, qui prennent y compris des décisions stratégiques importantes, comme les achats de machines, l'embauche de nouveaux équipiers, etc. Donc c'est vraiment des expériences très intéressantes avec des résultats économiques très impressionnants. Et on a aussi une deuxième famille d'initiatives sous le slogan d'entreprise libérée, adoptée par des grands groupes, notamment des grands groupes du CAC 40, hein, comme Michelin, Auchan, Airbus. Et là, c'est beaucoup plus contradictoire, puisqu'on a des grands groupes qui sont toujours sous la férule des marchés financiers, qui ont toujours des objectifs financiers trimestriels à remplir, donc des procédures extrêmement rigides de contrôle, et qui prétendent quand même redonner des marges de manœuvre à leurs travailleurs, instaurer des équipes autonomes et lâcher prise, en quelque sorte, sur le contrôle. Et en fait, l'expérience montre que c'est très difficile et ils n'y arrivent pas vraiment.
Et parfois, ça repart en arrière. Mmh. L'organisation du travail, Thomas Cottreau, c'est pourtant votre conviction, elle doit être politique, comme vous dites vous-même, puisque l'actuel peut écraser les travailleurs, peut également, vous l'avez mentionné, menacer la vie sur la planète. Qu'est-ce qu'il y a de plus politique ? Donc le politique doit s'emparer de tout ça. Pour l'instant, on ne parle que de l'entreprise.
Pour l'instant, le travail, il est confiné dans la sphère privée. L'entreprise, c'est une sphère privée où il y a un patron et des salariés qui ont passé un contrat de travail qui est un contrat de droit privé ce qu'on appelle d'ailleurs démocratie sociale entre guillemets hein, c'est la négociation collective dans l'entreprise ou au niveau de la branche, mais ça reste
qui est encouragé par les gouvernements quand même,
qui est encouragé mais qui reste une négociation entre partenaires sociaux entre guillemets, mais qui sont partie prenante à un contrat de droit privé et qui considèrent que finalement le travail, ça n'est que leur affaire, ce n'est que l'affaire des patrons et des travailleurs, alors qu'en réalité le travail ça a des conséquences énormes sur l'ensemble de la société, hein. Je l'ai dit sur la démocratie, mais aussi évidemment sur l'environnement, la façon dont on produit, ce qu'on produit aujourd'hui, ça a des conséquences majeures sur la crise écologique, sur la possibilité même de maintenir une vie décente sur Terre. Donc c'est une question politique. Il faut prendre acte du fait que le travail aujourd'hui doit être posé comme une question politique. Et j'aime bien citer Joan Tronto, la philosophe féministe américaine, qui dit aujourd'hui l'éthique du care doit prendre le dessus sur la logique du profit. C'est quoi l'éthique du care ? C'est l'idée que ce qui est fondamental du point de vue du travail aujourd'hui, c'est d'avoir un travail qui permette, comme elle dit, de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde. Et donc un travail qui ne vise plus mais qui ne vise plus principalement à augmenter la consommation, à augmenter les richesses, à une fuite dans le consumérisme, ce que nous vivons à un degré sans précédent aujourd'hui, mais qui se tourne beaucoup plus vers les besoins des écosystèmes, les besoins des gens, les besoins réels
prendre
des
soin,
gens.
Prendre soin de soi-même et de la planète.
Prendre soin
sorte.
De soi-même, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Voilà, à mon avis, comment on et devrait autres, reformuler aujourd'hui les finalités du travail.
Oui, mais les travailleurs eux-mêmes, est-ce qu'ils ont conscience toujours de leur valeur? On en a parlé tout à l'heure de la question de la résignation, mais l'intelligence, l'initiative, c'est... On a construit un monde tellement artificiel, si l'on vous suit, qu'il n'est pas facile de revenir à ce que vous appelez le travail vivant, c'est-à-dire mettre en avant la créativité, l'empathie avec même avec les clients, la coopération avec les collègues. Bien sûr, beaucoup y réussissent, mais c'est pas forcément dans la culture.
Alors, c'est pas dans
telle
la culture
que vous le décrivez. Hein.
C'est vrai que c'est la reconnaissance du travail vivant, de la créativité.
Oui, vous opposez travail vivant à travail mort. Hein.
Et de l'empathie et de l'initiative et de la liberté dans le travail, finalement. C'est pas quelque chose de facile pour le mouvement syndical, le mouvement social, mais c'est quand même une réalité très profonde du travail. Ça, c'est intéressant. Les sociologues et les psychologues et les psychodynamiciens du travail, ils ont montré, mais de façon répétée par des études systématiques depuis, c'est l'histoire de l'ergonomie, l'histoire de la psychologie du travail, l'histoire de la sociologie du travail, nous montrent, toujours, le travail est toujours vivant, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose d'imprévisible. S'il y a travail humain, c'est parce que il n'y a pas de robot, on ne peut pas robotiser tout, et on va bien le voir dans l'avenir, d'ailleurs. On ne pourra pas tout robotiser, sauf à nous préparer des catastrophes terribles. Et donc, le travail réel qui permet d'atteindre, de fabriquer des produits ou de rendre des services de qualité, c'est un travail vivant, c'est un travail qui est largement imprévisible et auto-organisé et qui produit du soin, qui produit de la qualité.
Et qui fait forcément appel à la raison et même à l'intelligence, bien sûr.
Oui, et alors, finalement, le constat majeur... À tous les niveaux.
Même au plus bas.
Même à des niveaux de... je cite des exemples d'études sur les éboueurs ou sur les ouvrières spécialisées dans les montages, dans le montage de téléviseurs, des études ergonomiques qui montrent à quel point ces personnes sont obligées d'être intelligentes dans leur travail malgré la prescription qui tente de les rendre idiotes. Et donc cette souffrance au travail que nous constatons aujourd'hui, c'est justement la résistance du travail vivant, la résistance de cette aspiration indéracinable des êtres humains à exercer leur intelligence et leur créativité dans leur travail. Et donc là, on a un fondement, on a une base très solide de mon point de vue pour reconstruire une perspective sur le travail en se basant sur cette aspiration et sur cette réalité incontournable du travail réel, du travail vivant, tel qu'il est réprimé aujourd'hui par l'organisation du travail, mais tel qu'il ressurgit à chaque instant.
Oui. Autre point intéressant, on va revenir aux propositions que vous faites. Alors, on va aller forcément un petit peu vite, mais vraiment, j'engage à découvrir ce livre très très riche, plein d'exemples, notamment dans ce que vous venez de dire. Vous parlez d'une entreprise, je ne sais plus laquelle, aux États-Unis, je crois, où on obligeait les infirmières dans un hôpital, on obligeait les infirmières à pointer ou à coder chaque fois qu'elles sortaient d'une pièce, d'une manière absolument.
Ah, mais ça, c'est en France. On a.
C'était absurde.
Le travail
en France, oui.
Je cite l'exemple de l'association Burtzorg aux Pays-Bas.
Voilà, c'est à Pays-Bas, excusez-moi, oui, pas États-Unis.
Le travail des infirmières à domicile en France, c'est la même chose. Hein, c'est un travail extrêmement taylorisé avec un minutage des actes. Et effectivement, aux Pays-Bas, s'est développée une association où les équipes d'infirmières sont auto-organisées. Il n'y a plus de temps imparti pour les actes infirmiers. Et le résultat, au bout de 10 ans d'existence de cette association, c'est qu'elle a attiré 10 000 infirmières, les 3/4 des infirmières à domicile aux Pays-Bas, et qu'elle a des performances sanitaires, économiques et sociales tout à fait extraordinaires.
Alors, c'est donc effectivement dont acte. On parle encore, pour terminer, de vos propositions. Je voulais qu'on ait le temps d'en citer quelques-unes. Il y a déjà nombreuses expérimentations. Vous en avez mentionné plusieurs. On va parler du travail collaboratif. Mais auparavant, réglons un peu son compte à la réduction du temps de travail. Là encore, vos amis économistes de gauche, dont beaucoup défendent ce principe-là, vont peut-être avoir des discussions avec vous. Je crois que c'est déjà parti. L'idée qu'en limitant la durée du travail, on va dégager du temps pour la démocratie, etc. C'est pas suffisant pour vous, c'est illusoire si l'on ne conteste pas en même temps cette division et cette valeur travail.
Si on ne conteste pas l'absence de liberté dans le travail.
Voilà. L'idée si l'on ne met pas en avant la valeur d'abord.
Oui, la qualité du travail, la qualité démocratique du travail.
Et donc c'est un élément de débat. Hein. Réduction du temps de travail, oui, mais pas n'importe comment.
Voilà.
Pas à n'importe quel prix. Les propositions, donc, travail collaboratif, des équipes, hein, où chacun est à l'égalité avec l'autre, une sorte de travail non hiérarchique, c'est... possible dans quel type d'entreprise, qui suppose quand même une gouvernance très très différente. Et vous avez parlé de la propension des dirigeants à quand même garder le pouvoir.
Alors c'est possible dans des entreprises, c'est possible dans les entreprises capitalistes, mais à condition qu'il y ait un patron qui accepte de lâcher prise. Ce qui n'est pas possible dans les entreprises du CAC 40 ou dans les grands groupes. Non, c'est même pas possible du tout dans les grands groupes multinationaux. Par contre, c'est possible. Il y a des expériences qui le montrent dans certaines petites entreprises familiales. Ce qui serait souhaitable, ce que j'aimerais, c'est que ça se développe dans des coopératives, par exemple. Ce qui est vraiment pas le cas pour l'instant. Hein. On n'a pas d'expérience pour... à part un cas que je cite dans le bouquin d'une entreprise basque qui fabrique Irizar, qui fabrique les bus Macron, d'ailleurs c'est amusant, ils fabriquent les Ouibus, qui fonctionnent selon le principe des équipes autogouvernées, mais sinon dans les coopératives, on reste dans une organisation hiérarchique, ce qui est quand même paradoxal.
Ce qui est paradoxal. Placé au cœur de l'organisation, l'éthique du CARE, vous l'avez dit, et dans le CARE, il y a quand même, et vous l'avez également mentionné, mais on peut peut-être y revenir, c'est très important, vous mentionnez l'importance du travail des femmes, qui a, bon, ben, comme on le sait, très, très largement dans la souffrance au travail, notamment, elles sont très, très largement représentées. Et vous avez pris beaucoup d'intérêt au phénomène de l'écoféminisme, dont on commence à parler, nous en avons parlé dans cette émission. Pourquoi ? Parce qu'il il prête attention, justement, à la vulnérabilité des êtres et de la nature.
Absolument. Le regard écoféministe, et le regard, finalement, de l'éthique du CARE dans le travail, alors, qui est porté de façon privilégiée par les femmes dans notre société, hein, vu la division
des tâches,
la division sexuelle des tâches. Et bien ce regard, il apporte un plus, enfin il apporte une dimension fondamentale, hein, qui était complètement écrasée, niée par la logique instrumentale, pseudo-scientifique du taylorisme et disons du progrès entre guillemets, l'illusion du progrès, l'illusion de ce que Cornelius Castoriadis, auquel je me réfère beaucoup dans le bouquin, appelait la pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle, hein, qui est cette espèce d'idéal absurde, hein, du scientisme, l'idée qu'on va arriver à maîtriser entièrement tout, et maîtriser la nature en particulier. Donc cette pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle, elle est fondamentalement mise en cause par la perspective du CARE, la perspective écoféministe, qui nous dit que, ben non, il faut, on peut pas tout contrôler. Il faut surtout prendre soin d'eux, s'occuper avec sollicitude de nous-mêmes, hein, et du monde qui nous entoure.
Oui, avec une grande, effectivement, préoccupation pour la situation du réchauffement climatique et du reste des pollutions, de l'extinction des espèces. Là, on retrouve le militant altermondialiste que vous êtes aussi, Thomas Coutreau. Et pour finir, j'aimerais peut-être montrer au fond, est-ce que tout cela n'aboutit pas à, puisque vous de plus en plus vous suggérez de séparer la rémunération des tâches réalisées, c'est-à-dire on ne travaille pas que pour la rémunération, on nous avait expliqué comment les syndicats s'étaient peut-être un peu fourvoyés dans cette direction-là. On arriverait finalement au salaire à vie, on arriverait à une forme de salaire universel. Est-ce que vous défendez ça? Si vous allez jusqu'à les séparer, vous faites quelques orientations possibles vers l'avenir à ce sujet?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux raisons fondamentales à ça. La première raison, c'est qu'on peut pas développer la gouvernance démocratique dans l'entreprise, les équipes autogouvernées, dans une situation de précarité, d'angoisse, d'insécurité. Et donc, il est essentiel qu'il y ait un salaire garanti, un revenu garanti. Et la deuxième chose, c'est que ce revenu doit être indépendant des tâches exercé par la personne, parce que sinon on revient toujours à cette logique de définition et de prévision à l'avance, de définition, de parcellisation des tâches. On a besoin d'une conception beaucoup plus, on appelle, holistique du travail, hein, où on définit une mission au travail, une mission à l'entreprise, une mission d'ordre sociétal, d'ordre écologique, qualitative et on met en œuvre les compétences, les savoir-faire, la collaboration pour atteindre les objectifs et la mission de l'organisation ou de l'entreprise. Et donc ça suppose une indépendance entre le travail concret qu'on est amené à faire au quotidien, les décisions qu'on est amené à prendre, et la rémunération. Sinon, si notre rémunération dépend des tâches qu'on réalise, eh bien, on va s'accrocher aux tâches actuelles et on va pas être disponible pour
inventer autre chose,
faire évoluer l'organisation en fonction des besoins, en fonction de la mission de l'organisation. Donc, c'est très important de séparer la rémunération, d'avoir une rémunération garantie, mais qui soit indépendante des tâches exercées.
Avez-vous le sentiment d'être un peu utopiste dans tout ce que vous nous proposez là ?
Oui, mais l'utopie, pour moi, ça doit se fonder dans ce que Marx appelait le mouvement réel des choses. C'est-à-dire, j'essaie de voir ce qui émerge aujourd'hui dans les pratiques sociales, de positif, de constructif, et d'imaginer comment ça pourrait se généraliser, comment ça pourrait finalement faire système pour remplacer le système délétère qui nous écrase aujourd'hui.
Donc on peut peut-être y arriver.
On doit y arriver, parce que sinon, on n'a pas d'avenir.
Je voudrais dire qu'en conclusion de votre livre, qui s'appelle « Libérer le travail », dont je le rappelle, pourquoi la gauche s'en moque, pourquoi ça doit changer, vous faites un appel à témoignage, c'est assez inhabituel. Voilà, allons-y tous, témoignages sont des expérimentations, des actions individuelles, des initiatives que nous prenons, même des initiatives en cachette de notre patron dans l'entreprise, s'il le faut, pour mieux vivre le travail, voilà, pour faire appel à l'intelligence et au sens, libérerletravail.org, c'est très sérieux.
Libérerletravail.org, oui.
Vous espérez bien qu'on va vous répondre
internet, largement. J'aimerais bien avoir des témoignages, oui, tout à fait, j'en ai quelques-uns déjà, mais pas assez.
Mais pas assez, donc l'appel est lancé et l'ouvrage est également en écriture inclusive pour une bonne partie.
Oui, je pense
c'est
que
c'est un choix assumé, évidemment.
Tout à fait, c'est la première fois que je fais ça dans un livre, mais je pense que ça a du sens, oui.
Merci beaucoup Thomas Coutreau d'être venu nous trouver. On renvoie à cet ouvrage très riche, hein, je le rappelle vraiment, avec beaucoup d'exemples d'illustrations et surtout qui appellent à débat, ce dont ne se privent pas vos collègues, je crois, hein, d'après ce que vous me dites.
Oui, ça déménage bien, ça secoue, oui.
Merci encore et merci à notre équipe de ce soir. Dany Journeau réalise l'émission, bien sûr, en compagnie de Philippe Mercher. Merci aussi à Laurence Genepin pour la préparation, pour la documentation. On trouvera tous ce titre-là et d'autres d'ailleurs, des travaux de Thomas Coutreau et des sujets qui s'y rapportent sur notre site franceculture.com. On vous dit nous à mercredi prochain et tout de suite à suivre après nous, Création On Air.